soir, la conférence épiscopale nationale du Congo Franco en sigle a entamé depuis la semaine dernière des consultations avec les forces politiques et sociales de la RDC pour comprendre les positions des uns des autres afin de baliser le chemin du dialogue. Le secrétaire général de la CENCO précise que cette action ne remplace pas celle du facilitateur, mais vient en appui à Edem Kodjo. Comment analyser cette initiative de la CENCO? Nous en parlons avec Dieudonné Moïse, il est député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir honorable Dieudonné Moïse.
Bonsoir Dimaké.
Professeur Félicien Kabamba, il est professeur et chercheur au centre d'études politiques de l'université de Kinshasa. Bonsoir professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Et maître Papi Chimpangila, il est cadre de l'UDPS et avocat conseil de Tien Tshisekedi. Bonsoir maître Papi Chimpangila.
Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kati.
Merci et bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Fin du premier round de consultation de la Conférence épiscopale nationale du Congo avec les forces politiques et sociales de la RDC ici à Kinshasa. Pas de bilan, mais c'est un élan pour arriver au dialogue, a déclaré le secrétaire général de la CENCO à l'issue de ces consultations. L'abbé Léonard Santédi a indiqué que ces rencontres s'inscrivent dans la droite ligne de la déclaration des évêques de la RDC du mois de juin dernier d'offrir leur sollicitude pastorale aux facilitateurs pour la tenue effective du dialogue politique. Pour lui, il a été donc question avec les différents groupes reçus, notamment ceux de l'opposition politique, d'examiner et de comprendre les sens des préalables qu'il pose pour en discuter avec les acteurs de la majorité et avec les facilitateurs. L'abbé Léonard Santédi est interrogé par Jean-Désiré Kanyama.
En écoutant les uns et les autres, pour les évêques, c'est d'abord de comprendre les positions des uns et des autres et de voir quels sont les points d'achoppement et quels sont néanmoins les espoirs pour que, en revenant vers le facilitateur, il puisse dialoguer avec lui et voir dans quelle mesure il est quand même possible de tenir le dialogue.
Avez-vous l'impression d'être entendu, surtout par ceux qui hésitent encore ou...
Oui, être entendu, plutôt c'est aux évêques de comprendre. Hein. Ils ont été sincères de dire, pour nous, il y a tel préalable. C'est que nous avons compris, c'est qu'ils veulent bien aller au dialogue, mais un dialogue qui doit néanmoins satisfaire à ses préalables.
Quelle a été la réaction des anti-dialogues?
Pour eux, c'est d'abord remercier les évêques de cette démarche et faire comprendre aux évêques pourquoi ils sont contre et quelles sont les raisons. Et il faut donner le temps au temps et espérer qu'après cet exercice, on pourrait alors bien baliser les chemins.
Merci, maître Papi Chimpangila. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et avocat conseil de Tshisekedi. Comment vous comprenez cette démarche des évêques?
Évidemment, nous nous réjouissons par la démarche entreprise par les évêques qui tente à baliser le chemin pour qu'on puisse réellement arriver à un compromis en vue d'aller au dialogue. Vous savez que le président Etienne Tshisekedi s'est toujours inscrit dans la voie du dialogue, mais néanmoins, il y a certains préalables qui ont été posés, des préalables qui ne datent pas d'aujourd'hui, pour que ce dialogue se déroule réellement conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'on puisse satisfaire tout le monde, et notamment qu'on puisse répondre aux impératifs des délais constitutionnels dans l'organisation des élections. Donc, par conséquent, cette initiative est très très bien accueillie, de telle sorte qu'on puisse tous réfléchir pour essayer de trouver les voies et moyens pour réellement baliser la voie et que ce dialogue puisse enfin débuter.
Oui, maître Papi Chimpangila, qu'est-ce que le rassemblement a dit à la CENCO? Avez-vous maintenu vos conditions initiales ou y a eu évolution?
Je pourrais simplement dire que les conditions du rassemblement, qui sont aussi également les conditions du président Etienne Tshisekedi, n'ont pas changé. Et je tiens à préciser qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui. C'est simplement des conditions qui ressortent de la résolution du Conseil de sécurité elle-même. Premièrement, il faut que nous puissions aller dans un dialogue pour organiser des élections crédibles et transparentes encore dans les délais constitutionnels. Deuxièmement, il faut que certains actes soient posés conformément à la résolution 2277, notamment qui exhorte que l'on puisse libérer les prisonniers politiques, que l'on puisse donner un accès libre et équitable aux médias publics, qu'on puisse sécuriser tous les candidats et qu'on puisse réellement entrer dans un climat politique apaisé. Donc toutes ces exigences sont des exigences qui ressortent directement de la résolution 2277 que le Rassemblement en a fait sien et que le président Tshisekedi avait déjà rappelé depuis 2015 dans sa feuille de route.
Et donc,
il ne s'agit pas des éléments nouveaux, il s'agit des éléments qui ont toujours été connus par toutes les parties, et que tant que ces préalables ne sont pas remplis, il sera difficile d'entrer dans le dialogue.
Et donc le Rassemblement maintient ses préalables, et si d'ici le 19 septembre prochain, n'est-ce pas, ces préalables ne sont toujours pas accomplis, qu'est-ce que le Rassemblement va faire? C'est-à-dire le 19 septembre, vous savez que c'est la date qui est prévue pour que la CENI puisse convoquer les corps électoraux. Si la CENI ne convoque pas les corps électoraux, mais aussi de l'autre côté, les rassemblements se rendent compte que ces préalables n'ont pas été pris en compte, comment se comporte à ce moment-là le rassemblement?
Je tiens premièrement à préciser que cette date n'est pas une invention ni du rassemblement, ni du président Étienne Tshisekedi, c'est une date constitutionnelle. La question qu'il faut poser est comment le peuple congolais va réagir dans tout son ensemble. Parce que ce n'est pas une question spécifique qui est liée à un groupe des personnes, c'est une question qui concerne la nation tout entière. Il s'agit des exigences constitutionnelles pour sauvegarder le socle de notre pacte républicain, pour éviter que une personne puisse aller au-delà des deux mandats qui lui ont été confiés par le constituant originaire. Donc ce n'est pas une question du rassemblement, une question du président Étienne Tshisekedi, c'est une question qui relève du bon sens et qui interpelle tout Congolais.
Oui, Maître Papi Chimpangila, les évêques ont promis de proposer un certain nombre d'éléments aux acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Ils vous ont proposé quoi? Les évêques ont proposé quoi au rassemblement?
Écoutez, vous savez que les pourparlers ne sont pas encore terminés. Ils ont fait un premier round de consultation. Les consultations doivent continuer pour que, de telle sorte que tous ensemble, on puisse réellement trouver une solution pour réellement entrer dans ce dialogue, dans un climat apaisé. Il y a plusieurs pistes de solutions qui pourront être évoquées, mais là n'est pas le sujet actuellement. Le sujet de poursuivre ces consultations qui sont déjà bien accueillies par le rassemblement, de telle sorte que tous ensemble, on puisse trouver une solution apaisée. Et je tiens à rappeler que l'objectif du président Étienne Tshisekedi n'a pas changé. Son objectif, il faut réellement qu'un dialogue réellement libre et constructif puisse avoir lieu afin de rentrer dans un processus électoral, dans un climat apaisé et un processus tout à fait crédible et en même temps des élections dans les délais constitutionnels, conformément à la résolution 2277.
Et y a-t-il un délai au-delà duquel le rassemblement pourrait refuser de participer à ce dialogue?
Mais je tiens simplement à vous dire que il n'y a pas de délai comme tel, mais les délais ressortent de la Constitution elle-même. À partir du moment où le 19 septembre, il y a pas la convocation du corps électoral, il y a une constatation d'échec de ceux qui sont chargés d'organiser les élections, notamment la CENI et le gouvernement. Et ça, c'est un fait qui ressort de la Constitution. Ce n'est pas un délai imposé par un groupe d'individus. Nous sommes dans le cadre constitutionnel et on doit continuer à réfléchir conformément à notre Constitution. Le gros problème est que les gens essayent d'imputer la responsabilité à d'autres personnes ou à un groupe de personnes, alors que la question fondamentale reste de savoir qu'est-ce qui est fait concrètement pour qu'on puisse avoir des élections conformément à notre Constitution.
Merci. Merci, Dieudonné Moinzé. Je rappelle que vous êtes député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Comment la majorité présidentielle a accueilli cette initiative de la CENCO?
Merci, Guy Maté. Je dois vous avouer que à la majorité présidentielle, nous avons accueilli avec enthousiasme l'initiative de la CENCO. Nous avions compris que la CENCO était en train réellement de jouer son rôle, c'est-à-dire celui d'église au milieu du village. Vous savez, nous sommes dans une situation où les travaux du dialogue sont bloqués et qu'il est important que les parties prenantes à ce forum national puissent se prononcer de manière claire et nette afin de pouvoir relancer ou commencer ces travaux. J'ai bien suivi l'intervention de tout à l'heure
de maître Papi Chipangila.
D'abord du responsable de la CENCO et puis de maître Papi Chipangila, je crois que je prononce bien son nom. Mais je me suis rendu compte qu'il faudra que l'on soit clair lorsque nous parlons d'un problème qui bloque un forum d'espoir de toute une nation.
Qu'est-ce que vous voulez dire là?
Je voudrais dire que le dialogue, je parle le même langage avec l'UDPS, et nous, à la majorité, nous avons le même langage, c'est-à-dire, nous nous sommes déjà mis d'accord, et j'ai suivi ça avec beaucoup de joie de la part du conseiller du président Étienne Tshisekedi, pour dire que nous restons tous attachés à la tenue de ce dialogue.
Et qu'est-ce que la CENCO vous a dit?
Et que nous savons que ce dialogue est la voie royale pour pouvoir amorcer un processus électoral apaisé, crédible, acceptable par tout le monde. Je vais revenir à votre question, mais je voudrais d'abord dire quelque chose. C'est-à-dire, lorsque nous parlons du blocage du processus vers la tenue du dialogue, nous devons nous dire clairement qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Puisque j'ai entendu de la part du conseiller du président de l'UDPS comme s'il n'y a qu'un problème de préalable. Mais je crois qu'il n'y a pas simplement un problème de préalable. Il y a deux choses importantes qui bloquent aujourd'hui le début des travaux du dialogue. Nous devons dire ça à notre peuple. C'est-à-dire, il y a d'abord les préalables qui sont posés par l'opposition ou le rassemblement par la bouche de M. Étienne Tshisekedi.
Mais il y a aussi... pas répondre la majorité présidentielle.
Non, je suis en train d'abord de citer ce qui bloque aujourd'hui le début des travaux. Et le deuxième point, c'est la récusation du facilitateur qui avait été réclamé par l'opposition aujourd'hui, qui est symbolisée, s'il faut le dire, par le rassemblement que préside M. Étienne Tshisekedi. Donc, il s'agit de ces deux choses importantes qui bloquent aujourd'hui les débuts des travaux. Quant à ce qui concerne les préalables, je crois que nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Et je crois que c'est sur base de ces préalables que l'on est arrivé à sortir un communiqué d'abord et puis relayer le contenu du communiqué lors du dernier meeting du rassemblement. Nous avions compris à partir du contenu du communiqué que ces préalables, c'est vrai, et je crois quand on va dans des négociations, c'est logique. C'est logique, c'est puisqu'au départ on a des points de vue divergents et que l'on voudrait trouver tout juste un juste milieu pour qu'on s'entende et qu'on dégage le compromis. Mais il se fait que l'on ne peut pas vider le contenu du dialogue avant de tenir le dialogue, puisque certains préalables rentrent même dans le contenu du dialogue. Et là, nous nous disons, mais qu'est-ce que l'on veut exactement?
C'est ce que vous avez dit à la CENCO?
Non, je vais revenir sur ce que nous avons dit à la CENCO. C'est-à-dire, nous comprenons qu'on risque de vider les contenus du dialogue, alors que le dialogue lui-même ne s'est pas encore tenu. Et quand nous parlons de la récusation, puisque vous allez lire les communiqués du rassemblement, vous rendrez compte que dans ces communiqués, on parle de 4 points. Et je ne voudrais pas revenir sur un point qui concerne la décrispation du climat politique, mais je parle de 3 points. D'abord, le premier point, on voudrait que le groupe de soutien puisse se transformer en groupe de facilitation. Et on considère que tous ces points ont été des compromis qui ont été, je ne sais pas, conclus à partir de l'extérieur. Donc, nous pensons qu'on risque de créer un problème pour le début de ces travaux, alors que nécessairement, il faut que l'on se retrouve, que l'on se parle. Puisque si on commence à faire un dialogue par télépathie, c'est-à-dire un dialogue à distance, nous risquons de ne pas nous entendre, nous risquons de ne pas nous comprendre. Alors, à la synchro, nous avons été clairs. À la synchro, nous avons été clairs. Nous pensons qu'en ce qui concerne les préalables, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter ensemble puisqu'on n'a pas le même entendement. Je voudrais vous dire, par exemple, lorsque l'on parle des prisonniers politiques. Bon, à la majorité comme à l'opposition, nous n'avons pas les dossiers nécessaires. Nous sommes acteurs politiques. Nous devons d'abord nous dire ça. Il y a un pouvoir qui s'occupe des juridictions ou de... du pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir n'est ni à la majorité, ni à l'opposition, en tant qu'acteur politique ou en tant que famille politique.
Et donc, nous sommes dit que nous risquons d'avoir... C'est pas discutable.
C'est ce que j'ai dit.
La question
c'est ce que
j'ai
dit que ça peut être discutable, puisque nous risquons d'avoir un entendement qui n'est pas le vôtre, comme le pouvoir risque d'avoir un entendement sur un cas qui n'est pas le vôtre. Donc, nous risquons de parler le langage de sourds, alors que vous parlez des prisonniers politiques, et le pouvoir judiciaire peut parler des politiques qui sont prisonniers. Donc, c'est question de s'entendre. Je donne toujours l'exemple quand je parle de ce cas, lorsque l'on a parlé de l'indépendance de ce pays. Les Congolais, les pionniers de l'indépendance se sont retrouvés en Belgique. Ils n'ont pas refusé de tenir la conférence sans pour autant que les prisonniers soient libérés. Ils ont exigé en pleine séance la libération de Patrice Emery Lumumba. C'est pour cela que Patrice Emery Lumumba a été libéré et a rejoint les autres à partir de la Belgique. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui il puisse y avoir d'autres Patrice Emery Lumumba en prison.
Merci professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Quelle analyse vous faites de la démarche de la CENCO?
La démarche de la CENCO est une conséquence prévisible de la récusation du facilitateur par nos amis du Rassemblement. Et cette récusation n'a pas été suivie du retrait du facilitateur ou encore de la nomination d'un nouveau facilitateur. Et donc, devant l'impasse, la CENCO a estimé qu'elle pouvait jouer un rôle pour dépanner la médiation. Et ce rôle me semble important. Mais important si jamais il arrivait à porter de bons fruits. Et il faut dire ici que il y a eu, de mon point de vue, un très faible engagement à la fois de la majorité et de l'opposition pour la tenue d'un dialogue dans un meilleur délai.
Lorsque vous parlez d'un très faible engagement de la part et de l'opposition et de la majorité, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, pour l'opposition, vous avez le fait que depuis qu'on a parlé du dialogue, l'opposition était carrément écartelée entre deux logiques. Une première logique d'une partie de l'opposition qui estimait qu'elle pouvait participer, et une deuxième qui ne pouvait pas participer. Et même ceux qui prétendaient, en fait, pas prétendaient, mais ceux qui avaient accepté de participer, ont un certain nombre de préalables. Et ces préalables, et c'est ça aussi qui fait intervenir la majorité, la majorité a développé une rhétorique selon laquelle elle est prête au dialogue, mais on se rend compte que, en ce qui concerne les mesures de confiance qu'elle devait prendre, la MDC comme on l'appelle en termes politiques, eh bien, elle n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour prendre suffisamment de mesures de confiance. On peut tenir un dialogue que si les différents acteurs créent un minimum de confiance entre eux. Et ces minimums de confiance, on les crée au travers de mesures de confiance. Les mesures de confiance sont des mesures qui sont unilatérales ou des mesures consensuelles à travers lesquelles les différentes parties prenantes prennent des engagements pour créer une confiance ou une détente. Et quand vous regardez du point de vue de la majorité, et vous regardez quelles sont ces mesures de confiance qui ont été créées, en fait, c'est ce que les autres appellent préalable. Vous vous rendez compte que là, véritablement, la majorité n'a pas aidé la médiation. Mais vous avez aussi, de l'autre côté, l'opposition qui semble écartelée en plusieurs logiques, et il ne faut pas non plus que le préalable parce qu'on ne peut pas tout obtenir. Mais il faut quand même que la majorité fasse un geste significatif. Il me semble bien que ce geste n'a pas été très significatif.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'Église catholique devrait faire partie de cette facilitation?
Alors, je crois que être facilitateur, il faut d'abord que les deux parties l'acceptent, c'est-à-dire la majorité et l'opposition. Je ne connais pas encore très bien la position de la majorité par rapport à l'entrée dans la médiation de l'Église catholique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'Église catholique a une très bonne connaissance du contexte, mais aussi des acteurs. Chose qui semble manquer un tout petit peu à Eden Couture. Je crois que s'il avait une très bonne connaissance des acteurs, probablement qu'on n'en sera pas arrivé là. Et l'Église catholique a ce capital que n'a pas le facilitateur aujourd'hui. Et donc il peut jouer un très bon rôle si jamais il lui était confié d'assurer la co-facilitation.
Vous venez de dire qu'il y avait un faible engagement, n'est-ce pas? Qu'il y a un faible engagement de la part des deux familles politiques. On constate que les lignes n'ont pas bougé. Et vous dites que l'initiative de l'Église est nécessaire. Est-ce une panacée, cette initiative?
Alors, cette initiative, je crois qu'elle vient au moment où il n'y avait rien du tout. Parce qu'on sentait qu'il y avait un blocage. Alors, nous, on regardait. Nos regards étaient fixés sur le facilitateur, quelle est la démarche qu'il allait suivre. Et on a senti qu'il était bloqué. Et je crois que c'est devant ce blocage que, en fait, la Synco a estimé qu'il était de bon aloi de reprendre la main. Et à mon avis, cette initiative s'inscrit dans une logique de dépannage. Il faut dépanner la médiation qui est véritablement en impasse.
Est-ce une panacée? Est-ce que ça va résoudre les problèmes de façon durable?
En fait, on ne peut pas parler de panacée ou d'incontournabilité de la démarche de la Synco, mais je crois que c'est parmi les initiatives qui vont être prises dans le sens de faire avancer les dialogues.
Merci, Maître Papi Kimpangila. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Chikapa.
Je suis Félicien Mwambi Alaoulenou, à partir de la ville de Chikapa, dans le Kasaï. L'initiative est bonne, mais je ne suis pas sûr que celle-là produira de meilleurs fruits, dans ce sens que les deux parties n'ont pas la bonne volonté de favoriser la tenue de dialogue tant attendu par le peuple congolais, parce que c'est par cette voie et certaines des questions seront bel et bien dissipées.
Maître Papi Chipangila, vous avez même suivi le prof Félicien Kabamba qui a affirmé qu'il y a eu un faible engagement, n'est-ce pas, de la part des familles politiques.
J'aimerais simplement peut-être donner les précisions suivantes, revenir un peu sur l'historique en une minute pour qu'on comprenne réellement que le président Étienne Tshisekedi et ensuite le rassemblement est resté en tout cas dans une logique constante par rapport à ce dialogue. En 2015, le président Étienne Tshisekedi a fait sortir sa feuille de route. Il ressortait clairement de cette feuille de route, il faut aller dialoguer. Pourquoi ? Pour qu'on puisse avoir réellement un processus électoral crédible, transparent, répondant à certains standards internationaux. Et ceci est relevé du constat qu'en 2006 et en 2011, nous avons eu des mauvaises élections. Il fallait rectifier le tir pour qu'on puisse avoir des bonnes élections et se présenter dans un processus tout à fait crédible. Pour ce faire, le président Étienne Tshisekedi a demandé que ce dialogue puisse se faire sous l'égide de la communauté internationale, d'où la facilitation. Et la facilitation, bien entendu, comme un arbitre qui doit tenir compte des points de vue des uns et des autres et jouir d'une confiance des uns et des autres pour pouvoir arbitrer en toute impartialité. Il s'avère que dans ce processus de la désignation du facilitateur, il s'est posé un problème par rapport à M. Edem Kodjo. Je tiens à préciser que la facilitation était sous-entendue premièrement qu'une facilitation des Nations Unies. Le président Étienne Tshisekedi a écrit aux Nations Unies dans ce sens. Il y a eu des démarches qui ont été entreprises aussi par la majorité dans ce sens. Nous avons eu même Saïd Djinit qui avait été désigné pour faire des consultations en vue de trouver les voies et moyens pour désigner un facilitateur. Mais subitement, on a été surpris
par une initiative prise unilatéralement cette fois-ci de l'Union africaine. Par conséquent, ça crée déjà une suspicion légitime par rapport à cette initiative de l'Union africaine. Nonobstant cela, le président Étienne Tshisekedi a rencontré à maintes reprises M. Edem Kodjo et le dernier acte proposé par M. Edem Kodjo, parce que dans l'entendement du président Étienne Tshisekedi, le dialogue concerne avant tout deux groupes, le groupe de la majorité dont l'autorité morale est le président et le président Kabila, et le groupe du changement dont le leadership est incarné par le président Étienne Tshisekedi. Donc il y a eu une convocation quasiment unilatérale du comité préparatoire, et bon, c'est ce dernier acte qui a rompu tout le lien de confiance à l'égard de M. Edem Kodjo. À partir du moment où l'une des parties récuse celui qui est censé jouer à l'arbitrage, on ne peut pas continuer sous ce format-là.
Maître Papi ?
Certes. Oui, José.
Oui, donc, vous voulez dire que le blocage auquel on assiste maintenant n'est pas le fait du rassemblement ?
Le blocage n'est nullement le fait ni du rassemblement ni du président Étienne Tshisekedi, parce qu'il est resté dans sa constance.
Merci.
Donc, par rapport à cet élément, il y a eu le groupe de soutien qui a continué à soutenir Edem Kodjo, mais toutes ces parties sont tiers par rapport réellement à la problématique du dialogue.
Merci.
Pour organiser des élections crédibles et transparentes, ça concerne avant tout les deux parties congolaises. Et même la société civile, elle ne vient qu'en appui, elle ne vient qu'en témoin pour renforcer ces deux groupes politiques en vue de trouver une solution. À partir du moment où cette analyse a été biaisée ultérieurement, on a tendance à croire que les préalables posés constituent des blocages.
Merci.
Et je tiens quand même à préciser que le président Étienne Tshisekedi et le rassemblement ne se sont pas limités simplement à récuser Edem Kodjo, mais ils ont proposé une solution à ce que le groupe de soutien se transforme en groupe de facilitation. Donc il y a eu une proposition qui a été faite dans ce sens. Et maintenant, la balle est d'une part par rapport à ce groupe de soutien, voir ce que l'on peut faire et voir dans quelle mesure tout acteur autre puisse réellement apporter un soutien pour qu'on puisse décrisper cette situation.
Maître Papi Tshibangui, là, vous avez suivi l'honorable Dieudonné Mouenze qui dit que vous risquez d'évider le contenu de ce dialogue alors que le dialogue proprement dit n'a pas encore commencé. Il y a des choses qui peuvent être des préalables qui peuvent être discutées au sein du dialogue.
Mais non, on ne doit pas entrer dans une confusion de genre. Le dialogue, c'est pourquoi ? C'est pour un processus électoral crédible et transparent. Le dialogue, ce n'est pas pour aller discuter la question de la libération des prisonniers politiques.
Merci.
Ce n'est pas pour aller discuter sur la question d'un accès équitable aux médias publics. Ce n'est pas pour aller discuter sur la question des doublements de partis politiques. Ce sont des mesures de décrispation qui doivent être prises avant le dialogue. C'est comme ça qu'on les qualifie des préalables. Mais ça ne fait pas l'objet d'une question de fond qui doit faire l'objet d'une discussion au sein de ce dialogue.
Merci, Maître Papi. On a compris. Honorable Dieudonné Mouenze, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Kinshasa.
Du Kamangou, depuis la ville de Kinshasa. Les faits étant accomplis suite à l'impossibilité d'avoir les élections dans le délai, le dialogue devient irréversible. De ces faits, toute démarche tendant à débloquer une situation confuse ne peut qu'être encouragée. Mais pour y arriver, le patriotisme doit primer avant tout. Pour ce cas d'espèce, la démarche de la CENCO ne peut réussir que si les parties prenantes arrivent à faire des concessions face aux préalables adverses. Et à mon avis, c'est la majorité présidentielle ayant une part importante de responsabilité dans la situation actuelle qui doit fléchir à l'essentiel des préalables adverses si sincèrement elle a une volonté de baliser le chemin à ces dialogues au lieu de se lancer dans les argumentaires qui ne feront qu'envenimer la situation.
Honorable Dieudonné Mouenze.
Monsieur Guimaté, je crois que je vais répondre à l'auditeur de tout à l'heure, mais je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que j'ai entendu et du professeur et de Maître Papi. Je crois que le faible engagement peut-être n'est pas tellement du côté de la majorité présidentielle. Il est vrai que nous avions commencé, comme Maître Papi l'a rappelé, des contacts d'abord avec l'UDPS.
à Ibiza et à Venise. Oui,
et aujourd'hui en dehors du pays, aujourd'hui nous n'allons pas faire.
Et ça évolue le bilan, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Nous n'allons pas faire le bilan de tout ce que nous nous sommes dit politiquement. Mais ce qui est vrai, je crois que l'UDPS doit le reconnaître, c'est le fait qu'il puisse y avoir, après beaucoup d'évolutions sur le plan de rapprochement, et qu'il puisse y avoir ce contact de Genval. Le contact de Genval, et je l'ai entendu tout à l'heure parler des dédoublements de partis politiques, je crois que l'UDPS n'a jamais évoqué ça comme préalable. Vous vous rendrez compte qu'il s'agit des préalables qui ont été ramassés en cours de route, puisque les contacts ont commencé bien longtemps. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas encore parler de doublement de partis politiques. Je crois que c'est cette rencontre des Genval qui a posé problème.
Et donc, la majorité s'en tient, n'est-ce pas, au compromis qui a été trouvé à Venise et à Ibiza.
Non, on ne s'en tient pas tellement à ça, mais on dit simplement que du moins on capitalise ce qui a été déjà convenu. Donc nous avons déjà beaucoup de choses sur lesquelles on s'est convenu. Et là, et en termes d'engagement, la majorité présidentielle a déjà fait beaucoup d'engagements. Mais le fait que l'UDP s'accepte, après avoir été diabolisé plusieurs fois par certains groupes politiques, vous savez, le G7 et aussi la dynamique de l'opposition, le fait que l'UDP s'accepte d'approcher tous ces groupes, je crois que c'est ça qui a un peu plus durci les tons. C'est-à-dire chacun en sus de l'agenda ou de préalable de l'UDPS, les autres ont amené également leur préalable. C'est pour cela qu'aujourd'hui on parle de poursuites judiciaires, on parle de dédoublement de partis politiques. Je crois que c'est ça un peu qui complique la situation. Mais je voudrais simplement que Maître Papi comprenne, puisque je l'ai entendu parler de la date du 19 septembre, il dit non, le peuple va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Non, nous devons être responsables dans ce que nous faisons. Nous savons bien que le dialogue est là, c'est pour décrisper la situation et baliser le chemin vers les élections libres, simplement puisque le processus électoral actuellement est en impasse. Et pour arriver aux élections, nous devons, de manière irréversible, comme a dit l'auditeur de Kinshasa, tenir ce dialogue. Et là, je suis très content puisque et l'UDPS, et le Rassemblement Général, et nous sommes d'accord sur ça. Et je crois qu'il faut déjà capitaliser cela et voir ça en termes d'un verre qui est déjà à moitié plein.
Mais Maître Papi précise que les préalables doivent être, n'est-ce pas, accomplis avant les dialogues. Ils ne font pas partie, n'est-ce pas, de l'objet même de ces dialogues-là.
Oui, mais j'ai donné ici un exemple de Bruxelles. J'ai donné un exemple de la Belgique. Je crois que on ne s'est pas retrouvé à cette conférence-là pour que l'on puisse libérer Patrice Emery Lumumba. Non. Le problème, c'est que Patrice Emery Lumumba était prisonnier dans le pays et s'est retrouvé en dehors du pays. Il parlait essentiellement de l'indépendance du Congo. Mais ils se sont rendus compte qu'en parlant de l'indépendance du Congo, en l'absence d'un homme important comme Patrice Emery Lumumba, il n'était pas possible. C'est ainsi qu'ils n'ont pas réclamé la libération de Patrice Emery Lumumba. À partir du Congo ou du territoire national, ils se sont transportés jusqu'en Belgique pour réclamer avant les travaux la libération de Patrice Emery Lumumba.
Puisque vous avez évoqué, vous avez évoqué la date du 19,
oui, on ne va pas
vous demander, n'est-ce pas, d'étaler les stratégies de la majorité, mais dans votre façon de percevoir les choses, est-ce que vous tenez compte de ces dates qui sont souvent évoquées dans les qui reviennent souvent dans l'émission de l'opposition?
Non, je crois que c'est ce que j'ai dit, nous
19
devons avoir, je crois que nous devons avoir un discours responsable, et ce discours responsable c'est celui-ci, c'est comprendre que ces dates tiennent compte du processus électoral. Et que le processus électoral lui-même aujourd'hui où nous parlons est à l'opposition et chez nous, nous sommes conscients qu'il est en impasse. Il est bloqué, il est plombé. Donc, par le fait même qu'il est plombé, il est bloqué, nous ne pouvons plus respecter ces dates. Ça, c'est connu. Mais maintenant, quand vous laissez au peuple de dire « Non, il faut que le peuple décide ce qu'il peut faire », ça devient de la politique irresponsable. C'est pour cela que nous voulons nous retrouver dans ce dialogue. C'est pour permettre à ce que nous, en tant que leaders politiques, en tant qu'acteurs politiques, nous puissions trouver un compromis politique et dire à notre peuple « Voilà les réalités, voilà là où nous devons aller pour que nous puissions baliser le chemin ». Mais je pense que je termine, s'il vous plaît, quelques secondes. Je termine par la facilitation. Je crois que la facilitation doit être aussi facilitée. Et ceux qui doivent faciliter la facilitation, ce sont les acteurs politiques. Nous avons l'obligation, nous, en tant que majorité en tant qu'opposition, pour que nous puissions faciliter la tâche de M. Edem Kodjo. Qu'est-ce que nous avons fait?
Professeur Félicien Kabamba, il y a une question qui vous adresse. Elle vient de Bukavu, au site Kivu.
Robert Romain de Bukavu, au site Kivu. En soi, cette initiative de la CENCO est bonne. Elle dénote les soucis ou les souhaits ardents de l'Église catholique de voir se tenir réellement le dialogue national en RDC. Je pense cependant qu'elle ne pourrait être une véritable réussite de cette institution qu'au cas où la CENCO parviendrait à convaincre tous les acteurs politiques à regarder dans la même direction pour la même cause, à savoir l'organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution. Sinon, cette initiative de la CENCO serait une perte inutile de temps et de moyens.
Oui, professeur Félicien Kabamba.
Bien sûr, il y a là, je crois, une vision très différenciée du problème, au niveau tant de la majorité que de l'opposition. Et l'initiative de la CENCO, ce n'est pas une initiative allant dans le sens de toucher déjà aux questions du dialogue, mais à voir comment on peut arriver à trouver une issue pour que le dialogue démarre. Donc c'est ça, comment arriver à faire démarrer le dialogue. Je crois que c'est ça l'objectif de la CENCO. Et je tiens ici à préciser une chose ici, c'est qu'en fait, le blocage qui est là, j'ai suivi ce que l'honorable Mwenzi a dit. En fait, du point de vue de l'opposition, il m'a semblé que le reproche qui était fait à l'UDPS et à Étienne Tshisekedi, c'est qu'en fait, ils voulaient embarquer l'opposition avec un agenda, semble-t-il, un agenda caché parce que les autres n'étaient pas. N'avait pas participé aux négociations qui a eu lieu entre l'UDPS et la majorité. Et donc, dans le souci d'embarquer l'ensemble de la majorité, je crois qu'ils ont pensé qu'il était nécessaire d'organiser la rencontre de Genève. Alors, de là, il m'a semblé qu'il est sorti un certain nombre de préoccupations et qu'il fallait intégrer dans le panier des négociations, donc dans les paniers de préalables. Et vous savez qu'il y a un principe qu'on ne peut pas dialoguer avec un coupéré à la gorge. Et donc, si vous avez des prisons, si l'opposition pense que les prisons sont remplies d'opposants, je crois que ce n'est pas non plus de mauvaise loi de demander que ces prisonniers soient libérés avant que le dialogue ne se tienne. Et je crois que la RDC ne sera pas le premier cas où et véritablement, de telles expériences se réalisent.
Vous avez suivi l'honorable Didier Moisé qui estime qu'il y a une divergence, n'est-ce pas, des perceptions par rapport à cette question des prisonniers. Hein. Il y en a qui parlent des prisonniers politiques et d'opinion. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et déjà là, est-ce que ce préalable pourrait être accompli avant les dialogues alors qu'il y a cette divergence de vues?
En fait, je sais pas s'il y a divergence de vues sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre d'opposants qui sont en prison. Et donc, l'opposition demande...
Et la majorité dit qu'ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils sont opposants, non. Mais parce qu'ils ont eu à poser des actes des droits communs.
Ça, c'est une interprétation propre à la majorité. Évidemment, il sera très difficile d'entrer dans cette polémique. Mais ce qui est demandé ici, c'est que le chef de l'État a le pouvoir gracier, si cela est le cas, tel opposant ou tel autre. Et je crois qu'il a pris une première ordonnance, mais il semble bien que l'ordonnance n'a pas répondu aux desiderata de l'opposition. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle la majorité peut encore réfléchir deux fois.
Alors, vous venez sur les positions des uns et des autres. Les lignes n'ont pas bougé, on l'a dit ici dans cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour débloquer finalement ces processus devant, n'est-ce pas, aboutir à ces dialogues que tout le monde semble soutenir aujourd'hui?
Alors, il faut que les lignes bougent. Il faut que la majorité revoie sa copie, revoie sa stratégie, qu'il ne reste pas ferme sur le préalable. Il faudra, à mon avis, essayer d'avancer sur la réalisation de certains préalables posés par l'opposition. Il faudra également que l'opposition ne cherche pas à tout obtenir en une fois, mais quand même que la majorité fasse des gestes qui sont assez significatifs. Il me semble que ce n'est pas encore le cas. Et donc, à partir du moment où... Voilà pourquoi j'ai parlé de faible engagement. Donc, je parlais de faible engagement parce qu'on ne semble pas voir véritablement des signaux très forts qui peuvent faire bouger les lignes. Et à partir du moment où ces signaux ne viennent pas, je ne vois pas comment la facilitation peut faire des miracles. Il n'y aura pas de miracle de la facilitation. Les principaux acteurs, c'est l'opposition et c'est la majorité.
Oui, et d'ici le 19 septembre prochain, rien n'est fait. Qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce que vous pensez que, à l'allure où vont les choses, on aura déjà le dialogue proprement dit d'ici le 19 septembre?
Alors, vous avez déjà vu que, à partir du moment où Étienne Tshisekedi est arrivé, il a tenu son meeting, et avant ça, la majorité avait fait précéder son meeting, et on a senti à travers le meeting, donc le meeting, qu'il y avait une sorte d'escalade. Alors, la peur, c'est que on va voir s'accentuer cette escalade, ce qui ne sera pas bon.
Maître Papi Tshipangila, que faut-il faire pour débloquer, n'est-ce pas, ces processus de vente, aboutir, n'est-ce pas, à ces dialogues? Le professeur Félicien Kabamba demande à la majorité, n'est-ce pas, de revoir ses stratégies, et à l'opposition de ne pas exiger tout au même moment.
J'aimerais simplement souligner que il appartient à ceux qui gouvernent de respecter leur engagement. Premièrement, entendre l'honorable Mwenze lorsqu'il dit que l'opposition tient un discours irresponsable, il inverse carrément les rôles. Je tiens à préciser que s'il n'y a pas élection, il n'y a pas convocation du corps électoral le 19 septembre, il y a des responsables. Il y a eu des élections chaotiques qui ont été organisées en 2011. Chaotique reconnu par tout le monde avec des irrégularités flagrantes. Rien n'était fait pour corriger cela. D'autre part, il y a eu toute une législature passée, rien n'était fait pour corriger cela, avoir un fichier crédible et tout ce qui s'ensuit pour qu'on puisse avoir des élections crédibles. Maintenant, on mène une politique délibérée du pourrissement de la situation jusqu'à ce qu'on arrive à la veille de la date fatidique pour faire incomber aux autres la responsabilité. Ce n'est pas sérieux. Le gros problème, il faut que la majorité au pouvoir respecte ses engagements. C'est cette majorité qui a signé les accords cadres d'Addis Abeba. C'est cette majorité qui s'est engagée à la voie de la réconciliation, à la voie de la tolérance. Lorsqu'on parle de la décrispation de l'espace politique, c'est elle qui s'engage à une voie de tolérance et à la démocratisation. Donc elle reconnaît qu'il y avait des carences dans ce domaine-là.
C'est pour cela
elle s'est engagée dans le cadre de l'accord cadre. Oui, je vous en prie.
Vous avez une conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
La conclusion, très rapidement, il faut que la majorité respecte ses engagements et qu'on réponde aux préalables posés par le président Étienne Tshisekedi et le Rassemblement. Ces préalables, je tiens à préciser, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent de depuis 2015. Nous avons eu des pourparlers avec la majorité au pouvoir, que ce soit à Venise et à Ibiza. Il y a eu des points de convergence. Notamment, parmi les points de convergence, il fallait décrisper l'espace politique, notamment en libérant les prisonniers politiques, en donnant un accès équitable aux médias publics. Donc ce sont des préalables qui avaient été déposés et qui avaient l'air même d'avoir été acceptés.
Merci, M. Papi. Honorable Dieudonné Mwenze, vous pensez qu'il est impossible, n'est-ce pas, de répondre à certains préalables de l'opposition pour débloquer le processus?
Non, il n'est pas impossible, M. Guimaté. Nous avons déjà répondu à beaucoup de préalables. Et d'ailleurs, le professeur l'a dit dans ses studios tout à l'heure. Nous sommes en train de... Puisque nous pensons que la paix n'a pas des prix et nous connaissons ce que coûte réellement la paix. Jusque là il y a déjà trois ordonnances que le chef de l'État a prises et pour décrisper la situation, et donc nous pensons que la stratégie de l'opposition doit être dans le sens d'aller réellement au dialogue, puisque aujourd'hui on dit que nous utilisons la politique de pourrissement, mais moi je pense que cette politique est utilisée par le Rassemblement ou l'opposition qui pense qu'il faut utiliser la politique du pour que l'on s'approche de la date du 19 et qu'à ce moment-là on soit à la date du 19.
Merci, mais on a compris qu'il n'est pas impossible de tenir compte des préalables de l'opposition.
Il faut des ajustements puisque cette date risque de ne pas être respectée. Donc le cahier des charges doit être celui de février 2015 et n'ont pas évolué.
Professeur, votre conclusion?
Oui, en fait, la majorité ne peut pas se présenter comme une victime parce qu'en fait, l'impasse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, elle est responsable, étant donné qu'elle n'a pas organisé les élections dans le délai, mais il faut qu'il y ait un rapprochement entre opposition et majorité pour qu'un consensus soit trouvé.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Ntiala qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Kéline Kouté, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision de Pelle Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.